Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Ça va bien ?
Bah écoute, ça va très bien, je suis ravie de te revoir et d'être ici à l'antenne avec toi.
Eh bah écoute, moi aussi, c'est tout partagé avec toi. Et tu sais, tout à l'heure, j'ai partagé aussi un moment avec Déborah Dupont-Daguet, qui est venue en interview, j'ai enregistré une interview avec elle, pour vous présenter son nouveau livre qui s'appelle « Le petit manuel pour savoir cuisiner » paru aux éditions First. Et ça sera vraiment quelque chose de très frais, de très beau. Hein, c'est ce que je voulais, tu voulais c'est placer ça. C'est mieux quand c'est frais, pour quand on cuisine, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est, on avait une discussion tout à l'heure et effectivement, tu me parlais de cuisine et je disais, enfin, en parler maintenant parce que c'est quand même mieux quand c'est frais.
Oui, le livre vient de sortir, il est tout frais. Et toi, alors, est-ce que tu vas nous amener de la fraîcheur avec ce que tu nous proposes aujourd'hui? Pas tellement.
Alors, de la fraîcheur, en fait, si, quelque part, puisque ça se passe dans les pays où il fait froid, en Russie particulièrement.
Ah oui, c'est frais ça.
On va partir sur un récit effrayant pour plusieurs raisons. Et si je le propose, c'est parce que je serai à une table ronde à l'Hôtel Pasteur dans 15 jours pour le festival Zoun, organisé par Animal Debout, Atelier du Bourg. Et parce que ça m'a permis de me reconnecter à ce merveilleux ouvrage que Nathalie Georges, justement, m'avait conseillé. Ça s'appelle « Croire aux fauves » de Nastasia Martin.
Waouh, ça donne envie. Alors, on y va direct avec toi. Nous écouterons l'interview de Déborah tout à l'heure.
Merci beaucoup, Juliana. Alors, c'est un ouvrage qui est paru chez Gallimard en 2019. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le récit vrai d'une femme anthropologue qui, le 25 août 2015, va subir un choc physique, émotionnel, qui va bouleverser sa vie. Et cet ouvrage nous relate exactement ce qui va lui arriver. Cette agression, cette altercation, cette blessure physique, émotionnelle, psychique, ce que ça va susciter en elle, ce que ça va bouleverser, ce temps de guérison, bien évidemment, ce temps de surinfection, et le fait d'être d'un hôpital à un autre, bien évidemment. Mais vous savez, c'est pas que ça, bien évidemment. C'est pas que la guérison physique, c'est la guérison aussi psychique. Ce qui me touche précisément dans cet ouvrage, c'est la manière dont elle écrit, c'est comment elle relate cette tragédie et comment elle en fait quelque chose, je vais peser mes mots, hein, où elle a reçu cette agression et elle en fait quelque chose qui va bien au-delà aussi d'un ouvrage, quelque chose qui bouleverse sa vie. J'ai envie de parler d'animisme. Voilà, le mot que je lance, c'est animisme. On est complètement dedans. Cet ours qui va la défigurer, qui va lui arracher la moitié de la mâchoire, et avec ce sentiment, cette impression d'avoir échangé quelque chose, mais réellement avec l'animal. Mmh. De recevoir et de lui avoir laissé quelque chose. C'est absolument bouleversant. Je n'avais jamais lu de livre aussi fort sur ce que peut être une tragédie et sur la réflexion, la réparation et la consolation qui est proposée. Nastasia Martin nous ouvre, oui, je vais rester sur ce mot-là que j'utilise, qui surgit de mon inconscient, parce que c'est véritablement ça.
Est-ce qu'il y a de la résilience aussi ?
Alors,
peut-être.
Alors, j'ai beaucoup de mal à utiliser ce mot parce que pour moi, je ne sais pas trop. Je vais dire oui. Oui, incontestablement, il y a de la résilience. Cette blessure qu'elle ressent, alors que, je veux dire, c'est quelqu'un qui est anthropologue. Elle n'arrive pas comme ça sans raison. Elle ne vient pas juste se promener pour justement découvrir la faune en se disant que la nature... Non, non, elle a tout à fait conscience que la nature peut être hostile, bien sûr. On découvre les limites de plein de choses, de l'environnement, d'une réalité et de cette réalité pas mortem, mais quasi mortem, parce qu'elle est quand même, évidemment, allongée après sur un lit d'hôpital avec des tuyaux dans la bouche. On est vraiment dans la description pour nous montrer, évidemment, la tragédie. Et puis après, dans ce même ordre, on voit la réparation, on voit surtout comment elle s'en sort, ses réflexions, ses pensées, ses combats, parce que c'est très dur aussi, bien sûr, elle va d'un hôpital à un autre pour connaître cette réparation, réparation aussi émotionnelle, et puis bien évidemment dans ce courant animiste et de résilience, ce que ça provoque en elle, ce que ça perturbe, ce que ça bouleverse au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'évidemment tout son corps va être malmené, qu'est-ce que ça crée ? D'autres mouvements, d'autres façons d'être, d'autres regards. Et d'un point de vue métaphorique, oui, d'autres regards, absolument. Mmh. C'est un ouvrage vraiment que je conseille à tout le monde, par amour des animaux, par amour de la vie. Vous savez, et tu sais, avant d'arriver là, j'allais vite. J'étais dans le métro et j'observais mes contemporains, on va tous vite. Et je crois que j'ai réouvert ce livre à un moment donné, j'étais à la station Sainte-Anne, et je me suis arrêtée et je me suis trompée de station. Parce que la puissance de cet ouvrage, c'est de nous reconnecter avec l'instant vivant, avec ce quelque chose qui, d'un seul coup, peut nous faire comprendre
le sens de la vie. Qui ça va trop vite. Qui ça va trop vite aussi.
Et que ça va trop vite, absolument. Et que prendre cette lecture dans un regard d'une anthropologue face à cette tragédie, ce qu'elle en écrit, ce qu'elle en ressort, c'est une manière, c'est une très belle alerte pour nous d'être... En tout cas, pour ma part, je remercierai jamais assez Nathalie Georges et cette autrice, et toi aussi de m'offrir cette tribune d'ailleurs, parce qu'on peut faire la promotion de cet ouvrage dans ce sens que ce qu'il détient, ce qu'il dévoile, va bien au-delà du livre, et c'est bouleversant d'émotion, de réflexion, de cette qualité effectivement qu'on peut s'ouvrir, à prendre le temps. Et j'en dirai pas plus parce que ça serait peut-être inutile. Alors j'ai très envie de le lire si tu es d'accord.
Ah oui, je suis d'accord. Je voulais juste signaler que pour la troisième fois consécutive presque, hein, parce qu'on a eu une rediffusion la semaine dernière, mais on est en train de parler d'un texte qui paraît aux éditions Verticales, donc fait partie de la maison Gallimard. Et comment cette maison là, Verticale, est quand même une sacrée maison.
Tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement je m'étais arrêtée à Gallimard. Bravo, merci beaucoup. Et voilà, au tout début, la dédicace, c'est à tous les êtres de la métamorphose, ici et là-bas. Voilà ce que dit Nastassia Martin en dédicace en tout début. Automne. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, au trait disparu sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiées par le sang séché jonchent le sol. Rappelle le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus. J'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nikolai a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spritz qui ont coulé le long des joues avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seul. Il a pris mon petit Alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire en pensant sûrement au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines. Que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons. Je m'emmitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve. Je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà, je sais. Je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes. Lui, sans moi. Moi, sans lui. Arriver à survivre, malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre. Arriver à vivre avec ce qui a été déposé. Je l'entends bien avant qu'il arrive. Il est inaudible pour Nikolai et Lana, qui m'ont rejointe tout à l'heure. Il arrive, je dis. Mais non, il n'y a rien, ils répondent. Juste nous, dans l'immensité avec la brume qui monte et qui descend. Pourtant, quelques minutes plus tard, un monstre de métal orange, rescapé de l'époque soviétique, vient nous arracher du lieu.
Merci infiniment, Sandrine.
Merci à vous.
Très, très fort. Voici en compagnie de Déborah Dupont-Daguet. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de ce livre qui vient de paraître, Le Petit Manuel pour savoir cuisiner, paru aux éditions First, et ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec cette maison d'édition. Pour mémoire, tu es déjà venu ici à Canal B pour nous parler des cookies de nos rêves. Nous avons même dégusté des cookies merveilleux. Tu es venu à Rennes aussi pour des signatures pour la brioche de nos rêves, des livres de collection, on va dire, avec des choses très précises. Et aujourd'hui, on vient avec ce manuel pour savoir cuisiner, beaucoup plus général.
Oui, j'ai effectivement commencé ce qu'on appelle des monographies dans le monde de la littérature culinaire, donc cookies, boulettes, brioches et petits gâteaux,
oui,
pour être dans l'ordre.
Oui, les petits gâteaux aussi.
Mais j'avais l'idée d'un livre de cuisine généraliste qui me trottait en tête depuis pas mal de temps, et donc à la fin de l'année dernière, j'ai dit à l'éditrice, en 2023, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de la collection de nos rêves. Et je lui ai proposé voilà, ce projet d'un livre généraliste, mais pas d'un livre de recettes, d'un livre de cuisine en fait. L'optique était vraiment de pallier ce manque de transmission culinaire qui existe malheureusement maintenant dans beaucoup de familles, où on n'apprend plus en fait à cuisiner. Il y a eu une rupture depuis peut-être 20 ou 30 ans, et on se retrouve avec des générations en fait qui savent se nourrir. Est-ce qu'eux, ils sont capables, effectivement, de faire cuire des pâtes, de faire cuire des pommes de terre, de faire cuire un steak? Ils sont capables de réchauffer des barquettes au micro-ondes ou de commander sur une appli? Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, pour vraiment s'alimenter, pour prendre son alimentation en main et pour être capable de se débrouiller aussi à moindre coût, coût étant entendu au sens général, c'est-à-dire il y a le coût monétaire, effectivement, bah, ça coûte moins cher de préparer soi-même. Mais il y a aussi le coût temporel et le coût énergétique, c'est-à-dire que on peut effectivement cuisiner pour pas trop cher, en faisant ça vite, au quotidien, avec 2-3 réflexes et un petit peu de pratique.
Quand on parle de cette rupture, c'est quoi? C'est un manque de plaisir?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a aussi, on a de plus en plus de sollicitations extérieures, de temps à consacrer à plein de choses, en fait.
Même les loisirs.
Exactement, les loisirs ont pris une part beaucoup plus importante. On a une sursollicitation, non seulement de la télévision, qui était le média classique, mais maintenant avec, avec les réseaux. C'est vrai que ça devient difficile, en fait, de se couper et de refaire de cette alimentation et de ces repas du quotidien et des repas familiaux notamment une priorité. Donc on se rend compte, le Covid en fait a aussi montré cette cassure et cette rupture avec des personnes qui se sont retrouvées brusquement chez elles à ne plus pouvoir être dehors tous les soirs et à se dire mince, ah ouais, mais là je fais comment en fait pour manger là avec l'inflation qu'on connaît vraiment de manière très très forte depuis au moins le début de l'année. Il y a aussi cette problématique de comment je fais pour me nourrir. Et là, je pense aussi aux jeunes, aux étudiants. Alors, pas forcément ceux qui sont en chambre de bonne ou en CTU. C'est vrai que si tu as juste un micro-ondes et une plaque de cuisson électrique qui chauffe mal, ça reste compliqué de se faire à manger. En revanche, quand tu es en coloc avec une vraie cuisine ou quand tu as ton premier appart, mais qui ressemble vraiment à un appart d'adulte en voie de constitution, de structure.
Avec les éléments.
Exactement, avec un four notamment, voilà. Un vrai four. C'est vrai que là, en fait, il y a quand même possibilité de se préparer ses repas à l'avance pour ses déjeuners, de pouvoir varier, de pouvoir utiliser aussi des produits qu'on ne sait pas forcément faire, qui nécessite de pouvoir être travaillé de plusieurs manières, parce que quand t'achètes une courge, là on est sur la saison des courges, c'est vrai que t'as butternut, si t'as pas 2-3 idées pour pouvoir l'accommoder,
fais une soupe et puis c'est tout.
Ouais, tu fais une soupe et c'est tout, et puis c'est très lassant, tu vas peut-être pas manger 4 soirs de suite la même soupe.
Ouais.
Alors qu'en fait, il y a plein de petits trucs pour cuisiner de manière variée, réutiliser les restes aussi. Mm-hmm. C'est tout bête, mais tu fais une plaque de légumes. Bah, tu vas manger tes légumes une première fois d'une certaine manière, et puis ensuite tu vas les réaccommoder de manière différente. Ça coûte pas cher. T'as allumé ton four qu'une fois, parce que c'est ça aussi. Moi, je suis très très admirative et perplexe des personnes qui cuisinent tous les jours. Moi, j'ai pas le temps en fait. Quand j'arrive du boulot le soir, je suis crevée comme tout le monde. Et c'est vrai qu'avoir déjà en fait tes boîtes à moitié prêtes au frigo où t'as juste à les sortir, à les recombiner de manière différente et à faire réchauffer, c'est quand même mieux que si à 20h tu dois te poser la question de qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce que je vais cuisiner, comment est-ce que je vais le cuisiner, et où t'es pas sorti avant 21h30. Donc voilà, l'idée c'était vraiment ça, c'était de montrer qu'on pouvait se réapproprier la chose culinaire.
Que la cuisine peut être une vraie thérapie.
Et aussi qu'on peut se tromper.
Oui.
Ça, j'y tiens j'y tiens dans tous mes livres avec le SAV des machins ratés. C'est-à-dire qu'en fait, si tu y réfléchis bien, tu te poses pas la question de savoir pourquoi ta recette, elle marche. Tu commences à réfléchir au pourquoi du comment quand ta recette, elle a raté. C'est-à-dire, si tu as loupé un truc, là, tu te poses la question de pourquoi j'ai raté. Et là, j'ai voulu aussi démystifier. Pourquoi est-ce que ma tarte salée de légumes, elle a rendu plein de flotte. Voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon curry, il n'a pas de goût? Ou au contraire, pourquoi est-ce que mon curry, il arrache beaucoup trop? En fait, il y a plein de petits topics comme ça qu'on peut identifier et qu'on peut démystifier tout simplement parce que c'est sûr que si personne t'a appris que tes courgettes râpées, que tu veux mettre dans une quiche, faut les essorer avant, mais tu peux pas le savoir.
Tu te retrouves avec ta tarte pleine de flotte.
Et à ce sujet, j'ai une anecdote qui est très très amusante. Une libraire qui a travaillé assez régulièrement à la librairie, mais qui était pas du tout spécialisée cuisine, comme ça un jour nous a apporté une tarte et effectivement qui avait rendu plein de flotte. Donc là, je me dis mais qu'est-ce que t'as fait, Alice? Comment c'est possible? Elle me dit il y avait marqué d'essorer. Je lui dis t'as essoré comment? Et là, elle me dit j'ai mis les courgettes râpées dans mon essoreuse à salade et j'ai tourné. Et en fait, bien sûr, si personne lui a expliqué qu'essorer des courgettes, ça veut dire les presser à la main pour extraire le jus, ou bien les mettre dans un torchon et tourner très fort pour extraire le jus. Alors, ça marche aussi pour les épinards, d'ailleurs, pour pas mal de légumes. Effectivement, tu lis dans un livre de recettes qu'il faut essorer, tu mets dans ton essoreuse et tu tournes. Sauf que ça marchera pas. Voilà.
Et tu vas donc jusqu'à des détails comme celui-ci.
Effectivement, comment expliciter ces termes culinaires qui nous paraissent évidents quand on a grandi là-dedans, quand on sait faire, quand on a vu ses parents, ses grands-parents cuisiner, et qu'on nous a expliqué depuis tout petit, ça veut dire quoi émincer, ça veut dire quoi ciseler. C'est quand même du vocabulaire technique. Donc ça paraît évident dans plein de secteurs que quand tu as un vocabulaire technique, il faut que tu te formes, sauf que l'alimentation, la cuisine, ça fait partie du quotidien, donc on imagine que ça va, c'est bon, tout le monde sait faire. Non, tout le monde ne sait pas faire. Dans plein de livres, on te parle par exemple en pâtisserie de cul de poule. C'est quoi un cul de poule? Si personne t'a dit qu'en fait c'est un saladier en inox, un bol quoi, un grand bol, tu comprends pas la première fois que tu lis une recette, tu dis mais qu'est-ce que vient faire un cul de poule là-dedans? La Maryse par exemple, racler les parois du bol avec une Maryse.
Oui.
Ouais, moi Maryse, c'est la plus jeune sœur de mon papa, je vais pas choper ma tante pour aller racler un bol, donc c'est quoi une Maryse? Voilà, il y a plein de petits termes comme ça. Donc à la fin j'ai fait un glossaire assez rigolo pour justement dédramatiser et puis expliquer c'est quoi ces termes en fait un peu bizarres.
Donc Déborah, tout à l'heure tu étais en train de parler des livres de la librairie. Rappelons-le quand même que tu es la patronne de deux librairies gourmandes, une à Paris, une à Dijon. Je pense que ce livre ici, mais comme tous les autres que tu as fait en tant qu'autrice, il est savement aussi étudié sur qu'est-ce qui manquait dans l'étal.
Ah oui, effectivement, pour faire ce livre, et c'est pareil pour les précédents, je suis partie aussi d'un constat de qu'est-ce qu'il me manque, c'est quoi le trou dans la raquette éditoriale. En matière de livres de cuisine générale, si on regarde bien, on a soit les grands livres classiques, qui sont d'ailleurs présents dans beaucoup de familles, donc Ginette Mathieu, Françoise Bernard, donc c'est des recettes pour tous les jours, c'est génial, mais ça ne correspond plus du tout à l'alimentation de 2023. Mmh. Ça correspond à l'heure actuelle plutôt au repas du dimanche ou au repas de fête. C'est très viandard, c'est des gros plats mijotés, il faut du temps, c'est assez riche. Ça correspond plus du tout à notre alimentation du quotidien. À côté de ça, on a plein de livres très tendance, très modernes, qui surfent un peu sur la tendance du chef israélien installé à Londres, Yotam Ottolenghi, où ça va être une cuisine alors là très estivale, avec des épices, avec des choses comme ça. Mais ça ne correspond plus à notre manière de nous alimenter au quotidien. On ne va pas manger ça tous les jours. Et en fait, le juste intermédiaire, je ne le trouvais pas. Et j'étais bien coincée quand on me demandait des livres de cuisine voilà, générale, qui permettent quand même d'avoir nos basiques, qui permettent vraiment de se nourrir au quotidien, mais qui ne soient pas non plus que des gros plats de viande. Et puis j'avais mes enfants qui grandissaient, puisque mes enfants ont 15 et 18 ans. Et je me suis aussi retrouvée confrontée à cette question de le jour où je suis pas là, ils se font quoi à manger à la maison ? Alors j'ai peut-être 300 livres chez moi, mais en fait j'étais incapable de leur en donner un en disant tiens, pioche là-dedans, t'arriveras à cuisiner, parce que c'était soit trop compliqué, soit trop exotique, soit trop basique, mais pas vraiment une recette. Donc au bout d'un moment tu fais bon, alors on va se poser, on va réfléchir. Et on va le construire, en fait, ce livre un peu idéal. D'ailleurs, plein de personnes, là, ça a été assez marrant depuis qu'il est sorti, plein de personnes m'ont dit, c'est le livre que j'aurais adoré avoir quand j'avais 22 ans et que je suis partie de chez moi. Ou bien, c'est le livre que j'aurais adoré écrire.
Oui. Oh, c'est le livre qui a même à 50 ans, j'ai très envie de l'avoir, simplement parce que j'ai tellement donné dans ma vie professionnelle que je n'ai pas assez cuisiné.
Donc, c'est vrai que, enfin, voilà, là, je suis très, très contente du résultat et des premiers retours. C'est un peu comme Tintin, quoi. Ça marche de 7 à 77 ans parce que j'ai vraiment eu... Je pensais m'adresser à un public adulte et en fait, j'ai des gamins de 10-12 ans qui m'ont dit « c'est génial ».
Ouais, il est top.
Et je pensais effectivement qu'un public plus adulte, plus confirmé, trouverait ça trop basique. Et en fait, non, j'ai plein de personnes qui pourtant savent très bien cuisiner qui me disent « mais c'est génial, je le laisse sur le plan de travail parce qu'en fait, il est idéal pour le quotidien ».
Alors, dévoilons quelques recettes quand même. Il y a des végétariennes aussi bien qu'il y a des recettes avec viande. Il y a aussi des gâteaux, des desserts, des entrées. C'est comment ?
Il y a vraiment de tout. Donc on commence effectivement par un chapitre avec des entrées. Donc les entrées, ça va aussi bien être une salade de crudités, parce que une salade de carottes, plutôt que d'acheter ta barquette de carottes râpées déjà assaisonnées et hors de prix avec plein d'additifs et de sucre, tu peux te la faire toi-même. Mais il va y avoir des entrées un petit peu plus contemporaines comme les cakes salés quand t'as besoin de faire un apéro ou bien des tartes, des choses comme ça. Ensuite, sur les plats, on va avoir aussi bien des faritas avec donc des tacos avec un chili végétarien que du burger.
Ou un steak végé pour le burger, génial.
En fait, mon fils est végétarien, alors que sa sœur est encore totalement carnivore. Donc, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de développer le même plat en deux variantes. Donc, on retrouve des recettes de pâtes, on retrouve...
Mac et cheese.
Ouais, le gratin de macaroni, en fait, avec une béchamel. Mais ça apprend aussi à faire une béchamel.
Ouais. Et même la blanquette de veau.
La blanquette de veau, exactement, et qui ensuite va être déclinée dans une blanquette végétarienne. En fait, si t'as compris c'est quoi une blanquette... T'es capable de la faire au veau, qui va être la viande la plus chère, mais t'es capable de la faire à la volaille, qui va être beaucoup moins chère, mais t'es aussi capable de la faire avec des légumes racines. C'est-à-dire que ta blanquette, si tu la fais avec de la patate douce, des carottes et du panais...
Il y aura la texture.
Bien sûr. Ouais. Il y aura de la mâche, il y aura des morceaux, et t'auras ta sauce, qui fera que dans l'esprit de n'importe quelle personne, en fait, on pose l'assiette sur la table et « Ah c'est une blanquette ça !» Ouais, sauf qu'elle est végétarienne. Et ça posera pas de problème. En fait, on a des marqueurs dans notre cuisine qui sont ensuite déclinables.
Oui.
C'est pareil sur les gâteaux, en fait. Un cake, c'est un cake. Maintenant, tu peux mettre à l'intérieur des choses qui font que le cake sera plus ou moins festif, plus ou moins classique. Il suffit de connaître les gammes. En musique, c'est pareil. T'apprends d'abord tes gammes et ensuite t'es capable d'improviser. Cuisine, c'est pareil. T'apprends c'est quoi une blanquette, t'apprends c'est quoi une bonne pâte à tarte. Il faut quoi pour réussir une pâte à tarte? Il faut des ingrédients et il faut une cuisson. C'est sûr que si tu prends pas les bons ingrédients qui sont pas bien équilibrés, ta pâte elle va s'effriter ou au contraire elle va être trop dure. Si tu fais pas cuire correctement, ta pâte en fait elle va être détrempée, elle va être molle, elle va pas être cuite, elle va te donner mal au ventre. Voilà, mais une fois que tu connais les marqueurs, tu es capable ensuite de faire. Et l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est donner à un homme un poisson, il mangera une fois. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Moi, ce que je veux avec ce livre, c'est apprendre aux gens à pêcher. Donner des poissons, c'est facile. Tous les livres de recettes font ça. Là, l'idée, c'est t'apprends à faire. Alors oui, tu te retrousses un peu les manches. Il va falloir un couteau qui coupe, un économe, être capable d'éplucher. Au début, tu vas y passer un peu de temps. Mais au bout d'un moment, bah voilà, tu sauras improviser avec tes fonds de frigo. Tu sauras aussi faire avec du pas cher sur le marché. Parce que l'avantage quand tu sais cuisiner, c'est que tu vas faire ton marché, il y a une promo, il y a les premiers je sais pas quoi là, par exemple, alors ça c'est plutôt un plat cher, mais il va y avoir les premières coquilles Saint-Jacques là qui vont arriver, c'est la saison qui démarre. Bon, bah, c'est vrai que c'est génial de savoir comment les faire. Si tu sais pas, t'es un peu coincé, tu passes à côté aussi de bonnes découvertes et de jolis produits de saison.
En tout cas, moi, je vois qu'il y a une variante pour une soufflé au fromage. C'est systématiquement le truc que je rate. Alors, donc, je vais l'essayer, tu vois.
Là, effectivement, c'est la recette qui m'a été donnée par une amie. Quand je discutais du livre, en fait, j'ai posé la question à certaines personnes de mon entourage. Je leur ai demandé... Alors, il y avait trois options. C'était soit la recette avec laquelle ils étaient partis de chez eux. Justement, quand tu t'installes en tant que jeune adulte, c'est quoi la recette emblématique de ta famille ? Donc j'ai des personnes qui m'ont répondu, d'autres personnes qui m'ont dit « Ah non, moi, de toute façon, mes parents cuisinaient pas, je suis repartie avec rien. » Je fais « Ok, alors c'est quoi la recette que t'aurais adoré avoir quand tu es partie ?» Et la troisième interprétation, c'est quoi la recette que t'aimerais donner à tes enfants ? Et le soufflé a donc fait partie des recettes qui m'ont été transmises comme ça avec « Ah non, mais moi, le soufflé !» Là, j'ai répondu « Non, mais te fous pas de moi. Le soufflé, c'est pas la recette que tu fais quand t'es jeune étudiant. Ça paraît hyper technique, il faut un four. » Et là, elle m'a dit « Mais non, moi, j'ai une recette de soufflé absolument inratable. On peut même le faire dans un saladier en verre. » Là, j'ai fait « Ok, curieuse, je veux bien tenter. » Et effectivement, j'ai tenté sur un four qui n'était pas le mien, puisque c'était chez le photographe, avec un moule qui n'était pas du tout mon moule à souffler traditionnel. Enfin voilà, j'étais pas dans ma cuisine, j'étais pas avec mon robot, j'étais avec un autre batteur, j'étais avec un autre four. En plus, on était sur un shooting photo, donc il y avait quand même une contrainte temporelle. Et le soufflé est sorti, mais absolument parfait. Et je l'ai refait depuis. Et en fait, tu peux le faire n'importe où, il marche, quoi.
Ah, génial. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. Donc, le petit manuel pour savoir cuisiner de Déborah Dupont-Daguet avec les photographies de David Japy et les illustrations Atelier Mio.
Oui, on a essayé effectivement de mixer photographie et illustration. Et pour les illustrations, en fait, donc Émilie de l'Atelier Mio qui est située à Lyon, je lui ai envoyé des inspirations qui venaient de vieux livres de cuisine des années 50 et 60 que je trouvais d'une modernité folle, en fait. Et je lui ai dit, c'est un peu ton style déjà, moi j'aimerais bien qu'on reste dans ce côté intemporel. En fait, le problème de ce qui est à la mode, c'est que ça se démode. Et en fait, je voulais clairement faire un manuel intemporel. Et j'espère que dans 50 ans, il sera encore dans toutes les cuisines. Et donc, on a fait effectivement ce mix de photos et d'illustrations pour expliciter certains gestes, certaines techniques pour appuyer des recettes.
Merci beaucoup, Déborah, d'être venue jusqu'ici à Canal B pour nous raconter tout ça. Et je suis très encouragée d'utiliser le petit manuel pour savoir cuisiner, concocté par toi aux éditions First. J'espère que vous allez faire de même.
Merci.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.